France Culture.
Les midis de culture. Marie Laborie.
Qui seraient Olga, Masha et Irina, les trois sœurs de Tchekhov, si elles vivaient ici et maintenant? C'est la question de Dolorosa, la pièce écrite par Rebecca Kricheldorf et mise en scène par Martial Di Fonzobo en ce moment. Il sera mon invité en compagnie de la comédienne Marie-Sophie Ferdan. Ce sera à partir de 13h. Mais on commence cette émission par le plateau critique du jour. Au menu donc deux expositions, Zygmar Polke sous les pavés, la terre, c'est à la Fondation Van Gogh à Arles, et Anita Molinero, Plastic Butcher, c'est au MAC de Marseille. Bonjour à toutes et à tous et bonjour aux critiques du jour. J'ai nommé Corinne Rondeau, maître de conférences en esthétique et sciences de l'art à l'université de Nîmes et critique d'art.
Bonjour Marie.
Bonjour. Sally Bonne, maître de conférences en esthétique à l'université Picardie Jules Verne, auteur, critique d'art et commissaire d'exposition.
Bonjour Marie.
Et bienvenue à toutes les deux.
Sa peinture, c'est vraiment un creuset alchimique de toutes les expérimentations. Il utilise souvent dans sa peinture des produits dangereux, des poisons, des peintures défendues même, parce qu'il pense que l'art doit produire en effet d'une certaine manière. Il est tout à fait opposé à un art décoratif qui enjolirait le monde d'une certaine manière. Lui, au contraire, il veut que l'art soit produise un effet, et même d'une manière drôle, il dit quelquefois, moi j'aimerais bien que devant mes peintures, puisque j'utilise des peintures à l'arsenic, j'aimerais bien que les gens perdent leurs cheveux. Évidemment, c'est une manière drôle et en même temps un peu inquiétante. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un flux d'expériences qui est complètement inédite.
L'historien de l'art Bernard Marcadet qui s'exprimait ici à propos des expérimentations de Zygmar Polke. L'artiste allemand est au cœur d'une grande exposition à la Fondation Van Gogh à Arles. Expo qui se concentre sur la période 1963-2009, soit un an avant la disparition de Polke. Il en ressort une œuvre explosive et explosée, difficilement classable, tant l'artiste se permettait une multiplicité des supports, des matériaux, des médiums. Zygmar Polke est né en Allemagne de l'Est et n'arrive à l'Ouest qu'à l'âge de 12 ans. Dans les années 60, avec son compère, l'artiste Gerhard Richter, il crée le réalisme capitaliste, un courant de la jeune scène allemande en réaction au réalisme socialiste en vigueur à l'Est et au capitalisme décomplexé à l'œuvre à l'Ouest. Il garde de cette période un regard féroce sur le monde, un sérieux sens de l'humour aussi. On commence par un avis rapide de l'une et de l'autre, Corinne Rondeau.
Bah écoutez, sous les pavés la terre, sous la terre les patates, et ça fait la réunion entre la Fondation Van Gogh, puisque c'est aussi dans sa première période Van Gogh peignait des patates, il y en a un petit peu dans l'exposition, et puis il y a des patates, beaucoup, chez Zygmar Polke, et puis comme on dit, entre deux hommes, il y a toujours une femme, Bichu Kuriguer, pour sa dernière exposition à la Fondation, qui lui a préparé et qui lui a mis une exposition aux petits oignons.
Oignons et patates, super, Sally Bonne.
De la cuisine donc. Alors effectivement il y a de la cuisine parce qu'il y a beaucoup d'expérimentations, on va en parler, dans l'œuvre de Zygmar Polke, qui est une œuvre extrêmement intéressante parce que multiple, parce que ambiguë. Cette exposition, en ces temps un peu sombres, est comme un vent revitalisant. Et c'est vraiment une exposition passionnante qui est à la fois éminemment politique et subversive.
Corinne Rondeau, vous êtes d'accord avec Sally Bonne sur le côté revitalisant de cette exposition?
Ah oui, Zygmar Polke. C'est vraiment une exposition qu'il faut aller voir parce que elle a de la fraîcheur, parce que justement, elle n'est pas du tout du côté de comment on doit penser l'art. Au contraire, Polke, c'est quand même quelqu'un qui est un artiste inclassable. C'est un artiste dont les expérimentations sont toujours aussi dans une métamorphose de son propre travail. Il n'est jamais là où on l'attend. Donc c'est une exposition qui est bondissante, vraiment. Il y a des échos partout. C'est une exposition qui travaille à la fois dans la première partie le dessin et la peinture, mais ensuite la photographie qui est très présente. Et il faut savoir que Polke a commencé par être un peintre sur verre. Et on retrouvera à la fin les sept vitraux qu'il a fait pour la grande cathédrale de Zurich, avec des agates et des tourmalines notamment. Donc on voit bien qu'il y a un travail sur la lumière, c'est-à-dire faire la lumière aussi sur quelque chose qui est l'art, mais avec le souci de l'art. On entendait Marcadet tout à l'heure sur les questions de perdre les cheveux, l'inquiétude et à la fois l'humour. Et on a ça tout le temps. Et je dois dire que Bichu Kuriguer a fait une exposition très sage, mais en fait, où moi j'ai eu des fous rires dans des salles, parce qu'en fait, on voit apparaître des choses. Donc elle a pas elle lui a pas fait qu'une une exposition aux petits oignons, elle lui a fait aussi un lupanar. Parce qu'il y a des dimensions libidinales. Par exemple, il y a des séries de photographies à Paris où à la fois, il mêle à la fois des visions de Paris, l'obélisque, la Concorde, du métro. Mais c'est aussi une visite intime avec son ami. Et donc, en fait, on a ces sortes de superpositions. On a cette photo, une même photo qui est travaillée à plusieurs reprises avec d'autres images. Jamais une photo à voir. C'est une photographie qui passe dans l'une, chaque fois dans l'autre. Donc il y a ce collectif, il y a cet espace, il y a cette histoire. Et en même temps, il y a la vie intime. Et à côté, vous allez avoir une espèce de grand tableau. Vous savez, ces tableaux sur lesquels on peut voir par transparence le châssis. Il y a un grand type qui est avec un chapeau, mais il ouvre un manteau, comme s'il portait qu'un caleçon avec des trucs, des carrés. On ne sait pas si c'est de la dope ou je ne sais pas. Et il y a quelque chose de, si vous voulez, de libidinal. C'est-à-dire, il y a une énergie, il y a quelque chose d'inattendu tout le temps. Et entre cette intimité, parce que si on regarde précisément ces photographies qui sont, qui floutent, qui sont presque aqueuse, où on a du mal à voir le détail, on voit apparaître de l'intimité, c'est-à-dire un sein, la tête de Paul que pas loin, et à côté vous avez le métro, vous avez l'obélisque de la Concorde à Paris. Et donc d'un coup vous avez ces échos, et comme c'est quelqu'un dont on peut voir le travail devant, derrière, puisqu'il n'y a pas quelque chose à contempler et parce que c'est pas fixe, eh bien c'est un impur et c'est quelqu'un de l'instabilité. Donc en fait on voit qu'il y a des choses qui se jouent avec un sourire, avec de la sensualité aussi, mais pas du tout comme on pourrait l'attendre dans le cadre de qu'est-ce que c'est qu'un nu en peinture, qu'est-ce que c'est qu'une œuvre politique, pas du tout. Et tout y est pourtant.
Oui, c'est ça.
C'est ça qui est vibrant dans l'exposition.
Parce que le politique, c'est ce que vous disiez, Sally, est présente quand même, enfin le politique.
Oui, le politique est présent, mais effectivement, comme le dit Corinne, il n'est pas démonstratif. Et il n'est pas, vous évoquiez en introduction le réalisme capitaliste inventé par Paul Keux avec Richter. L'idée, c'est si on parle de politique, du politique, c'est à travers effectivement un certain nombre d'écrans. Et ces écrans, en l'occurrence, c'est vrai que Mitchell Kuriger parle de l'œuvre de Paul Keux en disant que c'est le maître des ambiguïtés. Parce que il navigue entre la photographie, la peinture, le dessin et des expérimentations qui sont très étonnantes. Hein. Les photographies dont parlait Corinne à l'instant, c'est des photographies qui sont retravaillées à la chimie. Il utilise les produits chimiques pour abîmer les films, pour abîmer les images elles-mêmes, pour superposer des images entre elles. Et c'est vrai que la question de l'image aussi, elle est au cœur, vraiment au cœur de toute à la fois le geste et la pensée artistique de Paul Keux. C'est vraiment la question de l'image, à la fois parler des images, affronter le monde de l'image, le monde des images, comment les images viennent et comment on peut les retravailler, les transformer, les abîmer, les recouvrir, les faire apparaître, parce qu'il y a aussi des jeux comme ça d'apparition dans la multiplicité des gestes de peinture de Paul Keux, où tout d'un coup il utilise des lacs. À l'intérieur de ces lacs, il y a des images qui remontent comme ça, qui sont très fantomatiques. Parfois, ce sont des images qui ont une dimension justement politique. Mais pour cette question de l'image, en fait, ce pourquoi on connaît Paul Keux, enfin, en tout cas, de manière très très générale peut-être, c'est la question de la trame. Et en fait, c'est ces trames qui renvoient aux images médiatiques, aux images des journaux, hein, puisqu'il va en fait utiliser des images photographiques des journaux qu'il agrandit considérablement pour en garder la trame, une trame qu'il va reproduire sur des tableaux. Parfois, ça fait l'image du tableau, et parfois c'est une image qui vient sur un tableau qui est peint avec des pigments et avec de la laque. Et donc cette trame là elle est très intéressante parce qu'elle vient, en fait, elle est à la fois l'image elle-même mais complètement, considérablement agrandie, et en plus il le fait à la main, contrairement par exemple à Liechtenstein dont il s'inspire un petit peu, et on a en tête comme ça ces trames qui renvoient à la bande dessinée. Mais là, la trame, elle est faite à la main. Donc il a un pochoir, point par point, et parfois il y a des centaines voire des milliers de points. Mais cette trame là elle est intéressante parce qu'à la fois elle renvoie à la question de l'image agrandie, à la fois elle renvoie à la question de l'image elle-même, c'est-à-dire ce qu'on représente et comment on le représente, et elle renvoie aussi à une forme d'écran qui nous met dans un certain type de distance par rapport à l'image qu'on voit ou qu'on voit plus ou moins bien. Et par exemple, puisqu'on parlait de politique, il y a ce tableau qui s'appelle Les Fugitifs, qui est en fait un tableau qui est assez étonnant parce que selon l'emplacement, enfin selon la distance qu'on a avec celle-ci, on voit plus ou moins une sorte de brouillard avec tous ces points et cette trame, où on voit des gens qui sont en train de fuir, en fait, qui ramassent des affaires et qui s'en vont. Et en l'occurrence, c'est une image photographique qui est prise en fait des Allemands qui quittent l'Allemagne, qui essayent de fuir l'Allemagne de l'Est. Mais en même temps, comme un des personnages a une sorte de chapeau, ou en tout cas, il est entouré d'un geste de peinture verte qui, on dirait aussi, ça pourrait être un chapeau et donc représenter le Vietnam. On ne sait pas où c'est, on ne sait pas quand c'est, et on sait de quoi ça parle, mais ça peut être à tout instant, enfin à toute période de l'histoire, on va dire. Et donc, ça nous parle aussi, c'est-à-dire quand on voit ce tableau, on s'avance, on recule, et en fait, ça nous parle aussi d'aujourd'hui, même si c'est un tableau qui date des années 90, postérieur à la chute du mur, mais il vient parler de la chute du mur. Enfin, il vient parler de ce qu'il y a avant le mur, après la chute du mur.
Alors, l'exposition, je le disais, va de la période de 63 à 2009. Il y a forcément une évolution, j'imagine, Corinne Rondeau, dans ce qu'on voit.
Oui, il y a une évolution, puisqu'on a plus de dessins au début qu'on en a à la fin. Parce qu'on a au dernier étage aussi, on a des vidéos qui sont... Parce qu'il a beaucoup filmé, et il a une manière de filmer, c'est capturer du présent. Mais c'est un peu comme les photographies qu'on évoquait, ou même quand Sally parle de la trame, c'est-à-dire un point après l'autre à la main, ben c'est aussi la patate, hein, il faut aller chercher.
Ah oui, c'est sûr, patate. Et donc, revenons à la patate.
Oui, mais moi je trouve ça génial, parce qu'en fait, la patate, c'est vraiment qu'est-ce qu'on mange quand on n'a plus rien, quoi. Et puis, c'est le sérieux du travail que Van Gogh disait, hein, il voulait peindre quelque chose qui rapportait le sérieux du travail des paysans, mais je pense qu'il y a le souci chez Paul, que c'est un souci de l'art à travers effectivement des manipulations qui ne sont pas celles d'une figuration qui viennent rapporter un élément de signification, c'est-à-dire que ça peut apparaître comme une œuvre cryptée d'ailleurs, mais le problème c'est que même Paul n'a pas le code, donc c'est pas du tout énigmatique au sens il y a un mystère chez Paul. Paul n'est jamais là que là où il est. Il y a une anecdote d'ailleurs où il veut peindre un bouquet de fleurs et puis les esprits supérieurs viennent le voir et lui disent non, peins des flammes en rose. Alors évidemment, l'idée d'être en contact avec des flammes en rose, c'est peut-être aussi parce qu'il prenait quelques substances chimiques, mais c'est aussi une manière d'appeler du génie qui n'en est pas, c'est-à-dire d'évaluer quelque chose du génie, mais c'est aussi une manière de faire avec ce qu'on vit, avec les toxiques, les produits toxiques, la laque, le spray, la peinture d'aluminium. C'est aussi travailler avec des produits pharmaceutiques. Donc c'est quelqu'un qui est dans son monde et qui n'hésite pas à être dans un rapport corporel très très fort. Mmh. Et cette patate, c'est vraiment sous la terre la patate. Pour moi, c'est vraiment comment on va se saisir des choses. Et l'exposition, bien, elle se déroule évidemment, comme vous le dites, entre des, mais plutôt de la. Moi, j'ai trouvé l'ambition forte entre la peinture et la photographie, que je trouve très stimulante, parce que c'est un travail aussi, c'est une œuvre qui est toujours dans une réalité vivante et en mouvement. Autrement dit, je le disais tout à l'heure, tout passe dans tout, ça rebondit, c'est une œuvre qui est vagabonde, bizarre, et donc cette dimension de peut-être de l'incompréhension. Il y avait d'ailleurs un spectateur qui, à un moment donné, je lui dis, vous êtes très bien derrière le tableau, on voit vos pieds. Il m'a dit, mais je comprends rien à cette heure. Pourtant, je connais très bien l'art contemporain. J'ai failli lui dire, écoutez, c'est le bon moment pour vous, poussez la porte, vous allez voir une porte battante qui va vous pousser plus loin. Mais on n'est pas là pour comprendre Paul, on est là parce que je pense qu'il ramène du vivant. Sally disait tout à l'heure, ça nous parle aussi aujourd'hui, ces fugitifs de l'Allemagne de l'Est nous parlent aussi encore aujourd'hui, parce que des fugitifs, il y en a partout. Mais sans vouloir rapporter l'histoire au présent, il y a vraiment ce mouvement permanent. Moi, ce que j'ai trouvé extrêmement stimulant, c'est vraiment une œuvre du passage. Et je pense qu'entre le peintre sur verre et les vitraux à la fin et tout le travail de la photographie, ce n'est que l'impression de la lumière dans des matières. Et évidemment, c'est un chemin. Mmh. Et quand on voit que dans les vitraux, par exemple, à Zurich, il travaille sur des formes abstraites, Mais aussi, il va retravailler sur des enluminures et des lettrines du Moyen-Âge, puis ensuite des formes de la théorie de la Gestalt, de la théorie de la forme. Vous savez, cet exercice de la perception vase-profil sur un contraste noir et blanc. Mais moi, je suis pas allée à Zurich, mais je me dis, mais s'il y a une grande lumière qui traverse le blanc, je suis sûre que ça va défaire les contours. Mmh. Donc, Polk, c'est pas crypté, c'est qu'il défait tous les contours. Mmh. Et donc, cette manière même qu'il a de prendre le tube de peinture, et j'y vais. D'ailleurs, il y a une série de photographies qui s'appelle Le violet en mouvement, je crois. Ce n'est que des photographies où on voit qu'il a passé ses doigts dans de la peinture. C'est rien, mais moi je trouve ça sublimissime parce que ça correspond bien à cette intégrité du corps dans la matière et qui va du début jusqu'à la fin dans une cohérence. Et je trouve que vraiment, Beech-Curiga a parfaitement, enfin, elle le connaît depuis 74, ils ont fait leurs études ensemble, ils se connaissaient très bien. En 84, elle fait cet entretien, il en fera quasiment plus après, que je conseille à tout le monde. Il avait été réédité dans une édition aux presses du Réel, qui a à se tordre de rire, comme certaines fois dans les salles.
La peinture comme ignominie, hein.
Je voudrais juste qu'on revienne peut-être rapidement là-dessus sur l'aspect drôle, ce que vous soulignez toutes les deux.
C'est à la fois drôle et dangereux. C'est-à-dire qu'il joue aussi, Corinne a rappelé, il utilise des matériaux, aluminium, méthanol, arsenic. Il pose même un morceau d'uranium sur un papier photographique. Il y a la question de la dangerosité et de la toxicité des matériaux qu'il utilise, enfin, des matières qu'il utilise. C'est très présent. Mais en même temps, il en joue. C'est-à-dire qu'il nous met dans une situation et pourquoi c'est drôle? Parce qu'en fait, c'est ironique. C'est-à-dire qu'il est constamment en train de mettre à mal, en fait, l'idée de la peinture bourgeoise et décorative. On parlait de dimension revitalisante. Parce que il y a cette dimension subversive, c'est-à-dire qu'il joue et puis il s'amuse aussi. La première salle avec les patates, il y a aussi du jeu. Une cabane à patates. C'est-à-dire que la patate c'est la pauvreté, la patate c'est l'anti-bourgeoisie mais en même temps il s'amuse bien en fait avec cette cabane à patates.
Zygmunt Polk, Sous les pavés, la terre, c'est jusqu'au 26 octobre 2025 à la Fondation Van Gogh à Arles avec comme commissaire Beech-Curiga. C'est la dernière exposition à Arles, hein, c'est ça, pour elle.
Pour elle, oui. C'est Jean Deloisy qui reprend le flambeau.
Voilà.
Les poubelles rouges que vous avez vues à l'entrée, c'était à Marseille que je les ai faites, cette chute de poubelles. Et tout ça parce qu'à côté de chez moi, quand j'habitais Marseille, il y avait des enfants. Je passe un jour dans la rue. Des enfants qui avaient brûlé une poubelle. Moi, c'est les rues qui m'inspirent. Je vois des trucs de fous dans les rues. Les déchets, de mon point de vue, ce qui est déchet, c'est la chose la plus unique du monde. Parce que, en fait, il n'est pas prévu. Un déchet, c'est un bout comme ça, jeté. Et du coup, on ne peut pas le refaire. Donc, j'ai beaucoup travaillé avec ça. Je veux que les gens puissent dire devant les poubelles, c'est beau, ce qui n'est jamais le cas dans la vie, y compris pour moi.
Anita Molinero et sa déclaration d'amour aux poubelles. Elles trônent en majesté, ces poubelles brûlées au MAC de Marseille. Une cinquantaine d'œuvres de l'artiste sont exposées, certaines iconiques, très connues, d'autres pensées pour le lieu. Anita Molinero se passionne donc pour le déchet, pour les matériaux dont on ne veut plus, qu'elle transforme, qu'elle remodèle par des procédés souvent agressifs. Du plastique donc, fondu de préférence, mais aussi du fer à béton, de l'acier galva, des sacs de ciment. Elle recycle et quelque part on peut dire qu'elle répare. Un avis rapide, Sally Bonne pour commencer.
Alors, effectivement, elle utilise rebuts industriels, matériaux pauvres de la récupération, qui sont pas du tout sacralisés. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une dimension très monumentale de sa sculpture, mais les sculptures elles-mêmes ne sont pas sacralisées et elles acquièrent par la transformation du geste, parce qu'il y a vraiment la question du geste et de la matière. Hein, il y a un rapport geste-matière proprement sculptural dans l'œuvre de d'Anita Molinero qui révèle une espèce d'étrange beauté dans un rapport artificiel naturel ce qui m'a intéressé, c'est que je me suis dit tiens, une espèce de réponse, son œuvre, on pourra en discuter, à ce qu'on appelle aujourd'hui, je mets plein de guillemets, hein, le pétro-masculinisme.
Alors ça, je ne sais même pas ce que c'est.
Et on va en parler, mais Corinne Rondeau, un petit avis rapide d'abord.
Écoutez, moi j'ai trouvé que l'exposition avait une sagesse, la manière dont l'exposition se présentait. Non, mais c'est bien.
Ah, c'est bien.
Enfin, si vous voulez... Bon, oui, l'expo est pas mal dans son accrochage. Après, j'ai peut-être des bémols sur ce que devient son œuvre aujourd'hui. Voilà, l'œuvre de Anita Molinero.
Alors, Sally Bonne, pétromasculinisme.
Oui, alors, le pétromasculinisme, alors, bah, ça ne relève pas de l'œuvre d'Anita Molinero.
Mais vous faites un petit rapprochement.
Oui, je fais un rapprochement parce qu'en fait, c'est un concept qui a été forgé en 2018 par une chercheuse américaine pour désigner, en fait, tout ce qui relève à la fois du capitalisme pétrolifère et de la virilité. Donc, alors, il se trouve que...
Donc, vous voulez dire qu'elle est couillue, Anita, c'est ça ?
Non, non, pardon. Elle répond à ça, en fait. Il me semble que la transformation qu'elle fait de ces matériaux qui sont issus du pétrole peut être une réponse, alors c'est pas direct, évidemment, mais peut être une réponse à ce virilisme. Il se trouve juste, je le signale parce que c'est intéressant, que le livre où il est question de pétromasculinité, de l'autrice s'appelle Cara Dadjet, je sais pas comment ça se prononce, mais ça a été publié à Marseille. Voilà. Parfait. Donc on fait la petite boucle. Donc ce qui m'a intéressé, c'est parce que j'essayais de situer cette œuvre, en fait, justement, de me dire comment est-ce que elle se situe en regard de la question, des grandes questions de la consommation, du capitalisme, de l'art urbain. Enfin, tout un certain nombre de poncifs, hein, dans lesquels l'art peut se retrouver. Et qu'est-ce qu'on voit, en fait? On voit, alors, pour quand même le décrire un petit peu, oui. On voit des poubelles fondues, on voit des matériaux d'emballage, par exemple, qui sont accumulés. Il y a notamment une espèce de sculpture assez monumentale, hein, qui est en fait faite de 36 000, c'est pas des cartons, mais en fait, c'est des emballages de fruits qui sont accumulés les uns sur les autres, qu'elle vient sangler et après qu'elle fait fondre au chalumeau, voire au lance-flammes. Il y a aussi cette dimension un peu très physique, très très violente, oui, très toxique aussi.
C'est brutal. C'est
on
toxique,
parlait tout à l'heure de toxicité avec l'œuvre de Paul Keux. Alors on n'est pas du tout dans le même registre, mais il y a quand même une dimension toxique. On voit un film à la fin de l'exposition qui la montre avec, en tout cas ceux qui manipulent les objets ont des masques, comme des masques à gaz, parce qu'il y a une dangerosité de la matière et la dangerosité aussi de la matière qui vient de la brûlure, de la torsion, de l'accumulation. Elle utilise des d'échappement, il y a donc ces poubelles, il y a même des soufflets de bus qui sont donc, il faut imaginer, hein, ils sont sortis, ils sont retirés entre deux bus et posés au sol avec des fers à béton, avec des morceaux de macadam. Donc tout ce vocabulaire-là, qui est un vocabulaire totalement urbain, le geste de transformation qu'elle lui fait subir, soit par brûlure, soit par torsion, soit par accumulation, finalement, les déplace. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce déplacement-là, il n'est pas du tout de l'ordre d'une tentative d'esthétisation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Elle ne cherche pas à les rendre belles,
En même temps, elle le dit elle-même qu'elle cherche la beauté là-dedans.
Oui, mais enfin, moi, je trouve qu'il y a... C'est pas tant ça qui est en jeu quelque chose qui vient jouer dans un rapport dialectique avec une sorte d'interrogation sur ce que c'est que l'artificialité et de ce que serait la nature. Parce que un exemple, il y a des travées dans le MAC. Elle a trois travées. Après, il y a le reste de l'exposition permanente du MAC. D'ailleurs, ça dialogue pas mal avec certaines des œuvres. Et c'est d'ailleurs déclaré comme tel. Et donc, il y a une œuvre qu'elle a réalisée pour un centre d'art à Saint-Nazaire ou
À Saint-Nazaire, probablement, parce qu'elle a travaillé aussi là-bas.
Saint-Nazaire, peut-être. Mm-hmm. J'ai tout d'un coup un doute, pardon. Mais en tout cas, c'était au bord de la mer. Donc, il y a des filets de poissons. Enfin, il y a des filets pour ramasser les poissons qui sont accrochés à des grands cadres en bois. Et il y a du plastique qui a été fondu à travers les filets et qui vient fabriquer des sortes de stalactites ou stalagmites, selon la manière dont on les regarde. Et qui sont tout d'un coup... Il y a quelque chose d'un peu... d'un peu viscéral, d'un peu organique, d'un peu presque dégueulasse, en fait. C'est quand même assez étrange, hein, cette matérialité. Et je trouve que là, il y a quelque chose qui est assez intéressant et qui remet en question cet usage un peu, manifeste de la prise de... je récupère des poubelles, les jeunes de banlieue qui brûlent ça, c'est absolument fantastique, c'est très beau, etc. Je trouve que là, elle va fabriquer et donner à voir des choses plus subtiles que ce que pourrait laisser imaginer en fait la monumentalité de ses œuvres.
Corinne Rondeau, vous, c'était sur l'évolution de son œuvre.
Oui, non, mais moi, je trouve qu'elle est couillue, effectivement, quand elle manipulait dans les années 2000 des trucs énormes. On se dit, putain, là... Oh, pardon. Elle y va, quoi. OK. Elle veut entendre crier ses sculptures comme la rue. OK. Au bout d'un moment, on peut quand même se poser la question qu'est-ce que devient cette matière chimique au moment de l'Anthropocène. Enfin, il y a un moment donné où... Et le film que j'ai détesté profondément, Extradura...
C'est quoi ce film?
C'est un film que décrivait notamment en partie Sally, c'est-à-dire elle a l'habitude de détruire ses œuvres qui peuvent être recyclées dans d'autres expositions. Et donc, vous avez une espèce de nappage sonore un peu à... Je suis pas Lynch, mais je vais faire du Lynch, et puis je vais faire la lumière bleue à la Lynch. Je trouve qu'il y a une auto-célébration qui est insupportable, et finalement, et ce que n'est pas du tout le cas de Paul, que par exemple, il n'y a pas d'auto-célébration de son art, ni de lui-même, je trouve qu'il y a un épuisement. C'est-à-dire que quand on va dans le glanage, qu'est-ce qu'il y a dans la poubelle? C'est une chose, c'est son premier temps. Ensuite, c'est l'urbanisme, plus largement, on va dire, c'est-à-dire l'urbanité, l'arrêt de bus, la poubelle, je fais fondre tout ça, et j'y vais au chalumeau, à l'acétone, et je lave, etc. Mais là où moi j'ai apprécié l'exposition, c'est quand il y a des petites choses comme ces sacs de béton qu'elle a. Elle les a gorgés petit à petit d'eau et ça fait comme des bustes de sculptures hellénistes. Il y a des prothèses mammaires qu'elle a mis sur des structures en métal. On dirait des fragments de sculptures antiques. Il y a ce début là quand elle faisait du glanage de trottoir. Vous avez un plaque et il y a une tige de métal qui sort comme ça. Et on a l'impression que là on est dans un monde. Et elle n'a fait pas grand chose à cet endroit là. Mais quand elle en fout des tonnes, au début moi je trouvais ça super. Et bien maintenant je trouve que ça s'épuise. Et quand on voit la petite brochure qu'elle a fait sur le pouce avec César, je pense qu'il y a quelque chose qui s'épuise et qui va vers même une certaine décoration bourgeoise ou, avec une grande gueule, de la vulgarité.
Ah, carrément de la vulgarité. Sally Bonne, vulgarité pour vous aussi?
Vulgarité, je pense que la vulgarité, en l'occurrence, elle est assumée et elle est voulue aussi. Elle joue de ça totalement. Il y a peut-être une vulgarité, je suis d'accord avec Corinne, sur le film qui m'a pour moi été assez problématique parce que justement il vient renverser tout ce qui n'était pas, à mon sens, dans l'exposition et dans son travail, c'est-à-dire que là où elle ne... à mon sens, ne cherche pas la beauté dans la fabrication de ces objets, de ces sculptures. Tout d'un coup, on a une espèce d'esthétisation absolue de ces œuvres qui sont suspendues et qui sont éclairées de telle manière qu'on dirait des pièces de boucher, mais en même temps très rendues très belles, avec elle en plus en artiste, avec son masque au milieu de la scène. Il y a quelque chose d'un peu dommage en fait, parce que ça contredit en fait tout ce qu'on a vu avant.
Anita Molinero, Plastic Butcher, c'est jusqu'au 30 mars 2025 au MAC Marseille. Sally Bonne, Corinne Rondeau, merci beaucoup d'être venue dans les Midi de Culture.
Mais merci, Marie.
Et toutes les infos sont sur la page, évidemment, des Midi de Culture.